Yeah, okay, let's go.
Entre les pages. Sur Radio G. Bienvenue à l'enregistrement de Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Un Entre les pages très spécial, puisque nous n'avons jamais encore enregistré aussi loin de notre studio d'Angers. Bonjour donc à tous et à toutes, habitantes et habitants de Saumur, et merci de votre accueil. Aujourd'hui, nous avons installé notre studio dans la bibliothèque de Saumur. Pourquoi Saumur et pourquoi aussi loin d'Angers ? Parce qu'Entre les pages est une émission qui ne veut pas se contenter des apparences ou des évidences. Alors, allez sur le terrain pour voir de ses propres yeux ou plus simplement être dans le réel et non pas dans sa projection. Une autre interprétation de Platon et de sa caverne. Ne pas regarder l'ombre sur le mur, mais aller en plein soleil. Il se passe des choses à Angers, si vous saviez, on ne sait où donner de la tête et très vite quand on y habite, quand on y développe des activités, et tout particulièrement quand il s'agit de radio, l'univers se rétrécit au point de se circonscrire aux frontières de la ville. Et sans y prendre garde, avoir presque mécaniquement cette attitude condescendante et ce regard en surplomb sur la périphérie, sur l'ailleurs, sur l'autre. Alors, s'obliger à prendre la route, se contraindre à regarder d'autres paysages, à respirer d'autres parfums. Enquêter, se renseigner, déambuler aussi le nez au vent, et si vous saviez comme Saumur s'y prête. Flâner sur les berges de la Loire, arpenter les rues commerçantes et même prendre un café à une terrasse. Et pour Entre les pages, chercher les livres. Chercher ceux qui les écrivent. Chercher ceux qui les fabriquent. Ceux qui les distribuent. Ceux qui les mettent à disposition du public. Alors aujourd'hui, je suis saumurois sans complexe et je vais essayer dans les 59 minutes imparties d'échanger avec mes invités parce que je ne doute pas qu'ils ont des choses à me dire. Pour avoir ma vie durant beaucoup pérégriné, je crois savoir ce qu'il en est de parler du lieu où l'on est, avec passion, avec conviction, avec bonheur. Bonjour Gaël Legendre.
Bonjour.
Et merci pour cet accueil royal.
Avec plaisir.
Vous êtes le responsable de la bibliothèque de Saumur, c'est un très très bel équipement. Vous avez combien de livres dans cette bibliothèque ?
Alors, on a des collections de 270 000 ouvrages, alors documents en général, livres, mais aussi CD, DVD, et également des fonds patrimoniaux.
270 000 ?
Mm-hmm.
Alors, vous venez de répondre à ma question suivante, c'est n'y a-t-il que des livres à la bibliothèque de Saumur ?
Donc, on a toute une diversité de documents. Alors, j'ai parlé des CD, des DVD, mais également, on a aussi des ressources numériques.
Ressources numériques ?
Tout à fait. Alors, c'est à la fois de l'auto-formation, des personnes qui viennent consulter des cours de langue. On a aussi des CD. On a également des jeux vidéo maintenant, des livres évidemment, des périodiques, revues, magazines. Et puis quotidien.
Je vous ai présenté, vous êtes Gaël Legendre, et en fait je n'ai présenté que Gaël Legendre. Mais en fait, votre fonction dans la bibliothèque ?
Alors moi je suis responsable du réseau des bibliothèques de l'agglomération, donc ça recouvre la médiathèque de Saumur, laquelle on est aujourd'hui, mais également la médiathèque de Montreuil-Bellay, de Douai-en-Anjou, des liens avec 31 petites bibliothèques de communes autour de Saumur.
C'est vous qui animez ce réseau ?
Alors, j'anime ce réseau avec une équipe de 25 salariés.
Bien sûr,
tout à fait.
Sûr.
Et 240 bénévoles.
240 bénévoles. Moi, je ne connais pas de directeur ou de responsable de structure qui ne soit confronté à la rédaction du projet. Mmh. Vous savez, le projet avec un grand P.
Tout à fait.
Gaël Legendre, le projet de la bibliothèque de Saumur, qu'est-ce qu'il contient ?
Alors, le projet de la bibliothèque de Saumur, il est établi sur plusieurs années, donc là de 2018 jusqu'en 2023. Et puis, il vise à mailler le territoire avec des bibliothèques pour que les gens soient à 15 minutes d'une médiathèque.
15 minutes.
Voilà, 15 minutes d'une médiathèque. C'est le cas des habitants de Douai, de Saumur, de Montreuil et puis des habitants autour. Mais ce n'est pas le cas à Longué-Jumelles. Et donc, il y a un projet de nouvelle médiathèque à Longué-Jumelles notamment.
Là, vous parlez d'un territoire. Ce territoire, en termes de superficie ou de distance, quand on va du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça représente combien de kilomètres ?
Alors, combien de kilomètres ? On va dire que le point, on a le puits Notre-Dame qui se situe quand même bien au sud de l'agglomération et Moulierne qui se situe bien au nord. Je pense que là, on est aux alentours de 60 kilomètres, peut-être. Je regarde aussi les autres invités.
Oui.
Je pense que c'est une soixantaine de kilomètres à peu près.
60 kilomètres. Si j'insiste un peu sur ces détails, qui sont des détails purement pratiques, c'est à la fois, vous nous dites, vous êtes responsable d'un réseau, et d'un réseau qui est donc extrêmement étendu, très étendu.
Oui.
J'ai entendu plein de choses, bibliothèque, point de lecture, enfin bénévole, professionnel. Ça s'organise comment ?
Alors, on a des bibliothèques municipales, qui elles sont, on va dire, dépendent des communes et qui sont en réseau avec des médiathèques communautaires, donc des médiathèques où on retrouve, on va dire, une diversité de documents plus étendue, et les bibliothèques où on retrouve principalement le livre. Donc, ces médiathèques et bibliothèques sont en lien, et il y a la médiathèque de Saumur qui est la tête du réseau. Donc, qui assure, on va dire, les fonctions principales d'animation, de communication, notamment sur le fonctionnement de la bibliothèque numérique et puis d'autres points comme ça. Donc voilà, c'est une organisation comme ça. Et puis après, le département nous aide aussi à classifier, on va dire, les bibliothèques selon qu'elles dépendent d'une commune de, on va dire, de 500 habitants, 1000 habitants, 3000 habitants. Parce qu'après, le niveau d'ouverture, d'heure d'ouverture, est différent. Le nombre de documents aussi, le budget d'acquisition, le budget d'animation. Voilà, en fait, il y a vraiment une sorte de critérisation.
Parce que là, au mois de... Alors, je n'ai plus la date en tête. Ça devait être au mois de novembre dernier. Nous avions invité Martine Boutreux dans notre studio de Angers pour nous parler du Bibliopole. Ça veut dire que vous êtes dans le réseau du Bibliopole.
On est dans le réseau du Bibliopole avec une place, on va dire, un peu particulière. C'est-à-dire que le Bibliopole va nous aider à structurer le réseau de Saumur. Il va nous aider, on va dire, à mettre en place des pôles. Des médiathèques de pôle. Il va faire en sorte aussi d'établir des critères pour adhérer à ce réseau et qui va dépendre évidemment de la population de la commune en question.
Parce que moi, quand Martine Boutreux nous avait parlé, moi j'avais été impressionné par le nombre de points sur les départements du Maine-et-Loire. Le nombre est vraiment très impressionnant. Et en fait, finalement, je vérifie par le concret que ce que me disait Martine Boutreux à Angers au niveau départemental, en fait, on le revoit sur le terrain directement. Est-ce que dans vos attributions, dans votre rôle, il y a un rôle de conseil, d'accompagnement auprès des plus petits points de diffusion ?
Alors complètement, donc on a aujourd'hui des agents qui donc ont le rôle de bibliothécaires intercommunaux ou de coordinateurs comme on veut et donc qui sont répartis au niveau de l'agglomération entre secteurs nord, sud, est, ouest et qui interviennent, on va dire, sur 8 bibliothèques dans chaque secteur et qui vont accompagner les bénévoles et les équipes de bénévoles, parfois salariés aussi communaux, sur l'animation de leur bibliothèque, sur les choix de livres, avec des sortes de jurys de sélection, sur la formation aussi des bénévoles à l'utilisation du logiciel du réseau. Voilà, ils interviennent sur beaucoup de missions en accompagnement des bénévoles.
Vous parlez de jury, comité de lecture, c'est ça ?
Des comités de lecture.
Comités de lecture,
voilà.
Hein. Et ces comités de lecture, ils ont quel rôle ?
Alors, le libraire nous donne ce qu'on appelle des offices, c'est-à-dire qu'il nous remet un certain nombre d'ouvrages.
C'est impressionnant les termes, des offices.
Voilà, un certain nombre d'ouvrages qui sont ensuite compulsés par des bibliothécaires bénévoles et professionnels. Il y a des choix qui sont faits sur cette sélection. Et puis, on en prend certains, on redonne les autres aux libraires. Voilà, donc c'est sous forme de comité de sélection.
Et un professionnel donc, qui a son petit réseau de 8 points, c'est ça, hein,
oui.
il va intervenir comment auprès des bénévoles? Quelle va être la nature de son accompagnement? Est-ce que c'est par exemple la présentation de nouveaux auteurs? Est-ce que c'est...
Alors, il y a différentes missions, on va dire. Il y a une mission de suivi, c'est-à-dire que très régulièrement, il y a des réunions sur l'aménagement de la bibliothèque, sur comment mettre en place des actions vers le public des scolaires ou de la petite enfance. Il y a également des points, des relations aussi avec les structures des personnes âgées qui se situent sur la commune.
Donc, ça se présente comment, sous quelle forme pour les personnes âgées?
Des dépôts de livres ou des lectures dans les EHPAD.
Des dépôts de livres à domicile?
Des dépôts de livres dans les structures, voilà, des personnes âgées. EHPAD, maisons de retraite, voilà.
Là, on voit l'architecture. Cette architecture ne fonctionnerait pas sans le bibliopole.
Oui, parce qu'ils interviennent plus spécifiquement quand même dans les communes les moins peuplées. Donc avec des dépôts du bibliobus, donc une fois par an, le bibliobus se déplace et puis les bibliothécaires bénévoles viennent choisir des livres qui permettent de continuer à rendre attractifs les bibliothèques avec des fonds tournants.
On a vu un peu votre rôle, on est donc à Saumur, on a vu le réseau, l'architecture, comment ce réseau fonctionne. Est-ce que dans le projet donc 2019-2023, quel est l'objectif de développement en termes de points de diffusion?
Alors l'objectif de développement, il est notamment d'étendre le réseau aux bibliothèques qui ne sont pas encore informatisées avec le même logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 31 bibliothèques municipales dans le réseau. Il y en a 17 qui sont informatisées avec le même logiciel. Donc un service de navette fait le lien avec ces 17. L'objectif, c'est de prendre les 15 autres bibliothèques et puis de les mettre en réseau. En parallèle, c'est d'avoir un maillage plus complet du territoire avec des structures, on va dire, plus importantes et ouvertes davantage. Plus de 20 heures par semaine, et notamment un point à Langues et Jumelles, et sans doute aussi sur la commune nouvelle de Genneval-de-Loire, donc qui se situe à l'ouest de la communauté d'agglomération.
Ça veut dire qu'effectivement, un des objectifs, c'est de consolider des points plus importants pour permettre de rayonner au plus près des habitants.
C'est ça, tout à fait.
On a vu la bibliothèque de Saumur avec la multiplicité des possibilités qui sont offertes, c'est-à-dire entre le rayon adulte, le rayon jeune public, le multimédia, la musique. Enfin, il y a vraiment une offre large et complète. Mais comme je disais au début de cet entretien, je n'imagine pas un directeur de structure qui ne soit pas confronté à la question du projet. Je n'imagine pas un responsable de structure qui ne soit pas confronté à l'événementiel. Alors, je vais vous faire redire des choses que je connais.
D'accord.
Mais peu importe, on est là pour en parler. Il y a des événements, vous organisez des événements, et là où j'ai été impressionné, c'est que ces événements sont à la fois installés à Saumur, mais aussi sur le réseau, c'est-à-dire que la politique d'événementiel, elle se développe aussi sur le territoire. Eh bien, allons-y, parlez-nous des événements à venir.
Alors, il y a beaucoup d'événements
oui,
dans le réseau.
On n'aura certainement pas le temps de tout couvrir, mais allons-y.
Non, c'est sûr. On a évidemment des expositions. Alors, c'est des expositions qui sont... on loue des expositions pour un certain nombre de mois et ça nous permet de faire tourner ces expositions sur le réseau. On a, bon, là, par exemple, en ce moment, une exposition de fractales et de peintures numériques qui est exposée à la médiathèque de Saumur et qui a tourné auparavant à Douai-en-Anjou et à Montreuil-Bellay, aussi dans d'autres petites communes du territoire. Donc ça nous est arrivé aussi avec une exposition sur l'art du papier qui était donc avec un travail de Jean-Michel Letellier et Niki Nakamura sur le travail de la fibre de mûrier et puis des créations contemporaines artistiques sur cette fibre-là, sur un travail un peu très original. Et donc des gens sont venus faire des ateliers dans les médiathèques et les bibliothèques sur cette technique de ces artistes. Donc on a ce type d'animation artistique, littéraire évidemment, avec des venues d'auteurs, et puis vers des publics aussi plus spécifiques sur la petite enfance.
Oui, parlez-moi de cette exposition avec cet auteur hollandais, je crois, au nom imprononçable.
Voilà, le nom c'est G. Wegerif. Donc c'est une auteure hollandaise qui a fait un travail pour le public des tout petits, donc moins de 3 ans. Donc c'est avec des formes très basiques mais très colorées. Et donc des puzzles sont mis à disposition des tout petits, et donc à partir de ces albums ont été créés à partir de ces puzzles, et donc voilà, les tout petits peuvent jouer avec et puis s'amuser également avec les albums et puis avec leurs parents, pour évidemment le but hein, c'est que les enfants soient sensibilisés à la culture dès leur plus jeune âge et aussi au contact avec le livre.
Alors, je ne vais pas redire le nom d'auteur parce que je suis incapable de le dire. Donc,
G. Wegerif.
G. Wegerif. Voilà. Donc, cette personne a été publiée. Elle est publiée chez qui ?
Alors, c'est les éditions Memo.
Oui, donc, la maison d'édition de Nantes.
Voilà. Hein ? Et qui ont créé aussi l'exposition autour de son œuvre.
Oui, qui est un superbe travail. Alors, on est dans une bibliothèque, mais on est aussi au XXIe siècle, donc les temps changent, comme chantait Bob Dylan. J'ai vu aussi que vous conduisiez Cinémôme. Mm-hmm. C'est quoi ça, Cinémôme ?
Alors, Cinémôme, c'est des films, des courts-métrages bon, qui sont, on va dire... méconnus, qui ont des techniques utilisées qui sont aussi particulières, hein, comme le stop motion, et donc qui permettent aussi aux enfants de découvrir autre chose, le cinéma, avec d'autres aspects, parce que notre mission bibliothèque, bah, c'est évidemment de faire découvrir la littérature, le cinéma, mais on va dire avec des particularités, avec des spécificités, avec des auteurs, des réalisateurs moins connus que d'autres. Voilà.
Dans les événements, j'avais noté aussi une exposition qui s'appelle « Quand la SF joue avec le temps ».
Oui, et l'histoire.
Et l'histoire.
Voilà.
Alors ça, il s'agit de...
Alors, c'est une exposition qui a été créée par le réseau. Parce que le réseau... utilise, on va dire, des auteurs qui ont fait des expositions ou des sociétés hein, qui louent des expositions, mais ils en créent aussi. Et donc là, plusieurs bibliothécaires ont travaillé ensemble sur une thématique autour de l'ASF. Et donc le but, c'était de parler d'Uchronie, c'était de parler de tout ce qui fait le travail entre le temps, l'histoire, le cinéma aussi, avec plusieurs films comme Retour vers le futur, par exemple. Voilà, et c'est vrai que la SF a utilisé la thématique du temps en faisant des flashbacks, on trouvait intéressant de le mettre en avant dans cette exposition.
Il y a tellement de choses en fait dans cet endroit et dans ces endroits, parce que je pense qu'on ne peut pas parler de la bibliothèque de Saumur sans parler du réseau. Donc, c'est un ensemble. Mm-hmm. Il se passe vraiment énormément de choses, et je pense même qu'une émission ne suffirait pas pour donner toutes les informations. Donc, ce que je vais faire, c'est renvoyer les auditeurs au site. www.bibliothèque.aglosaumur.fr, c'est ça ?
Exactement.
Toutes les manifestations, enfin tout ce que nous avons évoqué figure sur ce site, c'est plutôt bien présenté, très en détail. Mais maintenant, ça va être l'heure de la pause musicale, et entre les pages, si on parle du monde des livres en Anjou, on ne passe aussi que des artistes de l'Anjou, et ceux que nous allons entendre ont mis leur son à l'aune de leur nom. Je vous propose d'écouter Wild Fox.
Fear the sun, try and roll the light. See the mountain, reach wheel the tree. Look at the sky, a little blue.
Radio G 101.5, c'était Wild Fox qui chantait Lock. Maintenant, un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Lorsque j'ai conçu cette émission, je ne connaissais strictement rien au paysage littéraire de l'Anjou. Bien sûr, j'ai pas échappé dans ma jeunesse, comme tout le monde, à Hervé Bazin. J'ai découvert que l'académicienne Danielle Salnave était de Savenières. Mais après 12 émissions, les choses ont bien changé. Et quand je me suis documenté sur Saumur, j'ai découvert une maison d'édition au nom étrange et magnifique, Banquise et Comète. Bonjour Jean-Luc Oudu.
Bonjour.
Vous êtes le responsable des éditions Banquise et Comète. Quel nom étrange.
Oui, l'idée de Banquise et Comète, c'est de rééditer des classiques oubliés des littératures qu'on appelle de l'imaginaire, donc début de la science-fiction, fantastique, aventure, voyage, et une petite collection histoire où nous explorons des sujets, des secrets d'histoire pour copier sur le titre d'une émission célèbre. Voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est que cette littérature du 19e, qui dont est issue la science-fiction et le fantastique, elle est née à une époque où les dernières frontières à explorer sont justement les pôles et surtout l'univers vers lequel on regarde enfin avec des yeux scientifiques et des outils adaptés.
Pour s'intéresser à cette littérature qui est quand même très particulière, qui nous renvoie dans le temps. D'ailleurs, on parlait pendant la musique d'uchronie, de temporalité étrange. Et quand, je vous l'ai d'ailleurs dit, quand je vous ai vu arriver, j'ai vraiment très sérieusement cru que vous débarquiez d'une machine à aller dans le temps et que vous veniez du 19e siècle. J'ai trouvé que votre présentation était à l'image de votre maison d'édition. Pour être donc sur un segment comme ça de cette nature, il faut commencer à s'intéresser un peu à la littérature. Et donc pour vous, Jean-Luc Oudu, ça a commencé comment, l'intérêt pour la littérature ?
Ça a commencé assez tôt. Hein. J'ai la chance d'avoir grandi dans une maison où il y avait plein de livres, puisque je suis le quatrième d'une fratrie de cinq. Donc j'ai hérité des bibliothèques de mes deux frères aînés en particulier, qui étaient passionnés de science-fiction. Et mon premier vrai livre, entre guillemets, celui dont j'ai l'impression que c'est le premier vrai livre que j'ai lu, c'est 20 milieux sous les mers dans la collection, dans la Bibliothèque Verte.
La Bibliothèque Verte.
Voilà, c'était un des volumes les plus épais. Et j'ai découvert Jules Verne. Plus tard, j'ai découvert aussi Alexandre Dumas, Paul Féval. Et en parallèle, des auteurs plus contemporains de science-fiction, Asimov, Clarke, etc. Donc j'ai une double casquette, mais très, très vite, je me suis assez passionné pour cette littérature. Et plus tard, j'ai découvert d'autres auteurs qui étaient totalement tombés dans l'oubli, comme Gustave Lerouge, par exemple, que j'ai réédité également, ou des œuvres méconnues de Jules Verne, des nouvelles, des romans moins connus. La série des Voyages extraordinaires, c'est, je crois, plus de 73 textes dont on ne connaît généralement que les 5 ou 6 plus célèbres. C'est donc un iceberg qui méritait d'être exploré également.
Quelqu'un qui dit qu'il a commencé à lire avec 20 milieux sous les mers, c'est soit qu'il est extrêmement précoce, soit qu'il a oublié qu'il a lu avant.
Non, j'ai toujours été un bon lecteur. Moi, je me souviens encore du plaisir que j'ai eu à apprendre à lire, parce que ça me permettait de déchiffrer à peu près tout. Donc je lisais tout ce qui me tombait sous la main pour commencer, parce que je me demandais ce que pouvait bien contenir ces livres dans lesquels on se plonge pendant des heures, ça m'intriguait beaucoup. Et quand je me suis aperçu du pouvoir de la littérature, je n'ai plus jamais arrêté de lire ou d'écrire.
Banquise et Comète, c'est une maison d'édition. L'origine du projet, ça a commencé quand, ce projet-là ?
Eh bien, ça a commencé en 2014, mais j'avais déjà une longue expérience dans le monde de l'édition, puisque j'avais travaillé pour d'autres maisons d'édition avant d'avoir l'opportunité de créer la mienne. Donc là, c'est un projet qui est beaucoup plus personnel, du coup, et qui m'a permis de faire plus ou moins exactement ce que je voulais avec les moyens dont je disposais.
Vous nous l'avez dit, vous venez de nous le dire, vous avez une passion pour cette littérature qui s'origine dans le 19e siècle. Hein. Moi, j'ai feuilleté votre catalogue et il y a des choses que j'ai découvertes. Il y a des choses qui m'ont interpellé. Une des questions qui m'est très très rapidement venue, c'est comment on découvre des textes. Comment vous faites ? Comment vous, où vous cherchez ? Où vous allez ? Parce que il y a des textes. Je ne veux pas dire que ma bibliothèque est infinie, mais il y a des choses que moi je ne connais pas. Donc comment vous les découvrez ? Comment vous allez les chercher, ces textes-là ?
Alors d'abord, il faut dire que la sélection des titres que l'on publie est purement subjective et donc imprégnée beaucoup de mes goûts personnels.
Oui.
Mais moi, je suis un grand collectionneur, donc j'entasse les éditions originales, les vieux bouquins, les revues. Parce que c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, mais le 19e siècle, c'est l'explosion de la littérature populaire, grâce notamment au feuilleton.
Au feuilleton.
Qui devient une sorte d'usine à rêve,
oui.
Comme l'est aujourd'hui le cinéma ou la télévision. Mais à l'époque, vers 1860-70 par exemple, la presse parisienne tire à 5 millions d'exemplaires. Ce qui nous laisse songeurs aujourd'hui, où la presse papier peine à survivre. C'est vraiment l'explosion, c'est dans le feuilleton que commencent tous les grands écrivains, les premiers, Balzac, de ses suivants, des rois du feuilleton que seront par exemple Ponson du Terrail, que nous ne pensons pas rééditer sous cette forme parce que c'est moins facilement lisible, mais aussi Paul Féval, qui est un écrivain extraordinaire, dont l'histoire même mériterait... probablement un roman, et puis plus tard, des gens comme Gérard de Nerval, dont j'ai retrouvé quelques nouvelles originales dans nos collections, Jules Verne, qui a démarré également sa carrière dans le Musée des Familles. D'ailleurs, j'ai republié une des premières nouvelles qui préfigure son œuvre plus tard chez Hetzel.
C'est des textes qui datent de quelle époque, ces textes de Jules Verne que vous venez de publier ?
1848.
Ouais. Donc c'est vraiment très tôt.
Oui, c'est très tôt. Jules Verne a très vite décidé de devenir écrivain, puisque son père l'avait envoyé à Paris faire des études de droit pour oublier une cousine dont il était tombé amoureux.
Ça arrive. Hein.
Et donc juste après la Révolution de 1848, il a rencontré le directeur d'une revue qui s'appelle le Musée des Familles, qui signe Pitre Chevalier, qui lui venait, qui a de 20 ans son aîné, qui venait de la région nantaise lui aussi, puisqu'il était natif de Paimboeuf. Donc il se reconnaissait en tant que breton, et quand Jules Verne a voulu publier des textes, forcément il est entré dans la littérature par le Musée des Familles.
Et les textes que vous avez publiés donc de Jules Verne,
donc, il y a Un drame dans les airs dont on vient de parler,
oui.
Donc il y a le premier récit de Jules Verne que Jules Verne consacre à la conquête de l'air. C'est un sujet sur lequel il reviendra longtemps. D'ailleurs, en postface, je raconte, parce que j'aime bien aussi présenter les ouvrages, donc en postface, je raconte les rapports entre Jules Verne et certains pionniers de ce qu'on appellera plus tard l'aviation. Alors, totalement nadar, mais pas seulement. Mmh. Et puis, une œuvre plus tardive, qui est La journée d'un journaliste américain en 1890, qui est un titre un peu long, mais c'est de la pure, oui. C'est de la pure anticipation. En fait, c'est la commande d'un journal américain, parce que Jules Verne était très célèbre aux États-Unis. Donc en 1889, un patron de presse a demandé à Jules Verne une petite nouvelle qu'il pourrait publier dans ses colonnes pour imaginer le futur de la presse américaine.
Et alors ce texte, comment vous l'avez retrouvé ?
Alors moi, je l'ai retrouvé dans sa version originale, puisqu'il est paru une première fois en France en 1890 dans le Petit Journal. Donc c'est le texte que je donne. Hein, plus tard, Jules Verne corrigera à nouveau ce texte pour être publié chez Hetzel. Mais là, c'est vraiment la version originale, dirons-nous. Et c'est une des premières collaborations de Jules Verne avec son fils Michel, qui sera son exécuteur testamentaire littéraire, puisque c'est Michel qui héritera de la bibliothèque de son père et de ses derniers manuscrits inachevés qu'il terminera pour les éditions Hachette.
Avec quelques petites complexités sur l'intégrité par rapport à Jules Verne.
Oui, tout à fait.
C'est pas... voilà.
Oui, tout à fait.
Il y a voilà, des histoires de famille, mais bon, Jules Verne n'est plus là.
Non.
N'était plus là. Alors, là où vous m'avez... où j'ai été interpellé, moi, je connaissais les aventures du baron de Münchhausen, et puis, mais je ne connaissais pas Alfred Anne-Douche, je ne connaissais pas du tout. Connaissais bien le bouquin, mais je ne connaissais pas ce texte-là.
Alors, c'est une adaptation pour la jeunesse des aventures du baron de Munchausen, ce qui nous épargne certains passages de galanterie, par exemple, un peu. Mais je tenais aussi, là, j'ai aussi ajouté un texte de mon cru, parce que je tenais à présenter le véritable baron de Munchausen, qui a réellement existé. Et je trouve injuste qu'on ait donné son nom à une maladie grave. Alors que plus qu'un menteur, plus qu'un mythomane, Baron Munchausen, on le voit à ses aventures, c'est d'abord un poète. Et puis surtout, les aventures du Baron Munchausen sont une synthèse de tout l'imaginaire du XVIIIe siècle, duquel va émerger la science-fiction. D'ailleurs, on le voit bien, puisque le Baron Munchausen va deux fois sur la Lune.
Oui.
Donc une fois de plus que Cyrano de Bergerac.
Oui, parce qu'il y a effectivement une...
Donc une fois par hasard, sans le faire exprès. Donc il découvre des pays imaginaires comme...
Et voilà, le trou...
Comme certains voyageurs imaginaires du XVIIIe siècle, voilà, comme Gulliver, mm-hmm. c'est revenu. Mm-hmm. Donc notamment, il découvre une île entièrement composée de fromage. Mais, Dieu merci, les rivières charrient du vin.
Ah ben, tout est bien, tout est bien.
Tout est bien à travers le monde. Il traverse la terre de part en part et évidemment dit bonjour aux dieux de l'Olympe qui vivent sous terre. Enfin, voilà, il découvre les pôles. Bref, c'est vraiment une synthèse de cet imaginaire et puis c'est très drôle.
Et donc, moi j'avais le roman bien évidemment en tête. J'avais aussi le film de Terry Gilliam. Je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous l'avez vu.
Bien sûr.
Oui. Et alors, ça vous...
Bien sûr, c'est une adaptation qui est tout à fait délicieuse. Il y a d'abord assez bien vu.
C'est plutôt bien vu. Oui.
C'est assez bien vu.
Le vol sur un boulet de canon.
Oui, complètement. Donc on a tous les grands épisodes avec une petite patte en plus, la folie de Terry Gilliam en plus, dirons-nous. Mais oui, c'est une bonne adaptation. Toute l'iconographie autour du Baron Munchausen est aussi devenue une sorte de tradition. Notre édition, pour être abrégée, n'en est pas moins assez riche, puisque j'ai ajouté des illustrations qui viennent de trois générations d'illustrateurs. Pour bien montrer aussi que quand on parle du baron de Munchausen, on a tous en tête, évidemment, cette fameuse image du baron volant sur des boulets de canon.
Votre maison d'édition, donc, qui développe un joli catalogue, en plus avec un travail, une recherche iconographique très belle, enfin, moi je la trouve très très belle. Moi j'ai sous les yeux le livre Ernest Bazin, inventeur angevin, peut-être personnage un peu méconnu et qui mériterait vraiment bien d'être connu. Vous en êtes l'éditeur ?
Non, en fait, je suis le concepteur de l'ouvrage, puisque l'auteur, c'est Michel Vessier, qui est un auteur que les angevins connaissent bien. Les éditions Feuillage m'ont proposé de travailler sur la maquette parce qu'ils connaissent mon intérêt pour cette époque justement et notamment sur l'iconographie qui est assez riche autour d'Ernest Bazin et de cette période. En plus, il y a un lien avec Jules Verne que je peux révéler au futur lecteur.
Moi, j'aimerais qu'on en parle de cet Ernest Bazin parce que c'est quand même un personnage.
Était un inventeur. Probablement autodidacte parce qu'on n'a pas trouvé de traces
de diplôme.
De diplôme. Il a d'abord été marin et puis est devenu inventeur et industriel. Puisqu'à l'époque, un inventeur vivait notamment de la fabrication et de la vente de ses inventions. Et Ernest Bazin, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il s'est vraiment intéressé à tous les domaines. Donc on trouve des inventions de la vie quotidienne, ou plus ou moins quotidienne, donc un lit d'hôpital avec un matelas pneumatique pour remplacer les paillasses de l'époque, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore dans son... C'est un formidable catalogue, une cafetière hydrostatique, par exemple, qui préfigure les machines expresso qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais d'autres inventions bien plus utiles et qui ont vraiment été utilisées, comme par exemple un appareil qui a été utilisé pour creuser le canal de Suez, qui était une grande révolution de l'époque, un des grands chantiers du 19e, une des sept merveilles, dirons-nous, du 19e siècle, ou encore améliorer les machines pour perforer les tunnels comme celui du Mont-Cenis. Il a aussi inventé des outils pour d'exploration sous-marine, notamment une cloche à plongée dont on dit qu'elle aurait été utilisée pour prendre les premières photos sous-marines. On n'a pas les clichés, ce qui fait qu'on ne peut pas revendiquer pour Ernest Bazin cette invention, mais il a vraiment préfiguré toutes les tentatives dans ce domaine. Et donc le lien avec Jules Verne, c'est qu'Ernest Bazin a aussi imaginé des appareils, notamment d'éclairage sous-marin, qui ont été utilisés en 1871 pour retrouver le trésor de la baie de Vigo. C'est une histoire passionnante qu'on raconte un peu.
La baie de Vigo, oui, allez-y. Voilà, allez-y.
Le trésor de la baie de Vigo, ça se déroule dans une guerre qu'on a oubliée, qui est la guerre de succession d'Espagne au tout début du XVIIIe siècle. Donc à cette période-là, la France et l'Espagne sont alliées contre l'Angleterre, dans cette espèce de triangle amoureux qui va préfigurer l'Europe où aujourd'hui tout le monde s'aime, même si c'est un peu plus loin.
Mais pas totalement.
Et donc, l'Espagne, en état de guerre, décide de rapatrier en une seule fois tout le stock d'or qui se trouve en Amérique du Sud, puisque c'est l'époque du siècle d'or. Donc, une flotte de galions va rapatrier toute cette production de l'année au port de Cadix. Malheureusement, les galions qui sont protégés par la marine française sont interceptés, menacés par la marine anglaise et se réfugient dans une baie qui s'appelle la baie de Vigo. Donc, et la marine française décide de les protéger pendant que les Espagnols commencent à décharger leur trésor. Mais audacieusement, la marine anglaise attaque et c'est une défaite pour les Français. Les Espagnols décident donc de brûler les derniers navires pour que le reste du trésor ne tombe pas entre leurs mains et les navires s'abîment au fond de la baie de Vigo. Dans Va mieux sous les mers, Jules Verne raconte, parce qu'évidemment il explore l'endroit avec Nemo, donc on découvre, Jules Verne nous raconte comment Nemo utilise justement l'argent de la baie de Vigo pour pouvoir poursuivre son aventure à bord du Nautilus.
Eh bien, merci Jean-Luc Cohn-Bilou pour cette...
Pour revenir sur Ernest Bazin,
oui.
Son invention la plus connue n'est pas forcément la plus efficace puisqu'il s'agit du bateau rouleur. Oui. C'est la dernière grande invention qu'il mettra au point puisqu'il mourra avant les derniers essais. C'est un navire assez extraordinaire puisqu'il était muni de 6 roues plutôt que d'une coque. Donc tous les détails sont donnés dans l'ouvrage, et qui a connu un destin, ma foi, un peu contrasté. Et il a existé une maquette de... C'est pour ça que je voulais en profiter pour lancer un appel public. Il a existé une maquette du bateau rouleur qui a été exposée à Angers pendant longtemps. Cette maquette a disparu.
Et donc, on recherche la maquette du bateau rouleur.
On recherche la maquette du bateau rouleur.
L'appel est lancé.
D'Hervé Bazin, qui est probablement un magnifique monument.
Ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, merci pour la richesse de... On n'a pas eu le temps de tout dire. Moi, j'avais envie de vous parler de votre oncle Archibald, mais on n'en parlera pas. On n'a pas le temps. Merci pour cet ensemble d'informations. Nous allons faire une nouvelle pause musicale avec, encore une fois, un groupe d'ici, un groupe qui s'appelle Simawe et qui chante « Who Else ?».
There's no bound when she rules my days, and I'll forever mean this song. She never went away, she's always sincere in us. Iman and Peggy to walking highway, because I'm feeling here and now that I'm awake. because you are just love in the wheel, my washing against the devil, devil in my mind to sing home all the real. Yeah, 'cause mama, enough is so far from here, I'm getting lost, here comes the fear. Darkness of our deeper memories, where the mind is so sweet, this melody is this and that sting, life is gonna hurt. I must be ready, fate is all around. Maybe I need to leave my soul in found, lead a space I feel safe, that I'm separate from the wanted, and I cross the field without feeling the ground. I'm acting on yesterday, hoping tomorrow will be. Illusion needs something more, and then I look up to be sure someone keeps her alive. Yeah, 'cause mama, enough is so far from here, I'm getting lost, here comes the fear. Man, I'm paid, I'm walking away, 'cause I'm feeling here and now, then I'm awake, 'cause you are just love and giving, you light up all the living, bursting with you, myself, it goes away. Tears on the sky in the sky is mine.
De retour d'Entre les pages sur Radio G 101.5. Nous sommes toujours installés à Saumur et nous découvrons toute l'offre qui existe aux alentours de son magnifique château. Mais pour l'heure, c'est notre moment lecture. Pour rester dans l'esprit de l'émission, ce sont des extraits d'un petit recueil d'Alban Gelé que j'ai proposé à Inès.
Les lumières aux fenêtres ne sont pas toutes éteintes. Je marche depuis des heures en cherchant des couloirs d'air qui me feraient des chemins possibles. Je suis avec toi, avec vous. De toute façon, je ne suis plus fatiguée. J'aime suivre une direction sans boussole, et je retrouve toujours le nom de quelques constellations. Les arbres à côté de moi ont des mouvements de vagues, les couleurs sont un peu jaunes. De toute façon, je ne regarde pas vraiment ce qui m'entoure, parce que tout me traverse. Les écorces des troncs, les feuilles dans les branches, les couleurs et les flous. Mon cœur perçoit la grande panique des bêtes et s'accélère. J'essaye de verser du calme dans leurs veines et dans les miennes. Pendant que la pluie descend, je transporte mes cailloux avec les bras. Pendant la nuit de la comète, il fallait sauver tout ce qui respire. Tu comprends ? Moi, je me suis affairée à de petits gestes pour aller vite et porter lourd. Mais les souvenirs me ralentissaient. Je suis devenue bleue. J'ai recouru à des prières. Dans ma bouche, j'avais ce goût persistant d'une cerise pas encore mûre. Je parle en face des rivières, des monuments. Les mots font des rebonds et disparaissent. Il me faudrait un chien pour amener tous ces mots lancés. Finalement, je me débrouille tout seul. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. J'entends tes mots et ils viennent se mélanger aux miens. En ce qui me concerne, je m'abrite des frelons sous de grands parasols orange. J'ai parfois l'impression que l'été est féroce, que l'été est un chasseur. Je me protège comme je peux. quelques milliers de kilomètres de poussière, dégringole presque depuis 4000 ans. Si j'osais, je me déguiserais en ange. Matin, midi et soir, je m'entraîne à tomber. Et s'il m'arrive de pousser des cris, comme si on abattait un arbre devant moi. Dans mes manches, je cache des pansements, des allumettes et quelques tissus colorés. Tout ça me sert de bouclier. Il faut une vigilance de pilote pour déjouer les pièges du mélancolique. Deux ou trois tables par rangée dans le jardin aux deux terrasses. Il ne m'en faut pas beaucoup pour prendre une grande décision. Alors, ma joie flotte. Quel brouillard, tu ne trouves pas ? Je cherche les parois de ma cabane, je zigzague, je m'envole. J'aimerais être un acrobate. Rien n'est tout à fait symétrique, c'est certainement ce qui me manque, un compas dans l'œil. Mais tant pis, j'ai plus mes légumes en relisant les nouvelles grises sur le journal d'avant-hier, avant d'aller jeter tout ça. Sur les murets d'en face, toute une petite faune se rencontre. Je peux les rejoindre. J'essaye de ne pas me laisser impressionner par les menaces des comptes à rebours. Dans les boîtes à fleurs, je dispose quelques-unes de mes plus grandes secousses. On dirait des morceaux de météorites. Je referme.
Merci Inès pour cette lecture donc, d'un extrait du livre d'Alban Gelet, illustré par Anne Leloup. Nos abris. Vous êtes sur Radio G, vous écoutez l'émission Entre les pages et nous sommes à Saumur où nous parlons de cette magnifique ville et de ce qui se passe dans le monde des livres. Dernier invité de cette émission, la Gino Blandin, une première question. Comment se porte Julie Lantilly ?
Elle se porte très bien, mais faut l'excuser, elle n'a pas pu venir aujourd'hui.
Oui. Comment, qu'est-ce à dire ? Pourtant, nous étions convenus.
Oui, mais ça fait rare.
Donc, Gino Blandin, vous êtes auteur de romans policiers.
Voilà.
Entre autres.
Entre autres.
Entre autres, hein, oui. Parce que à regarder votre site, on se rend bien compte que vous n'êtes pas que auteur de romans policiers.
Oui, enfin, je donne dans l'histoire.
Oui.
Côté littéraire, je donne dans l'histoire et dans le roman policier.
Oui. Vous travaillez pour la SL. Enfin, vous travaillez. Vous êtes secrétaire de la SLSC.
Non, je suis le président de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Saumur.
Voilà, je n'arrivais pas à dire l'acronyme.
C'est ma partie historique, ça.
Oui,
hein, ça
la partie sérieuse.
Oui, oui, voilà. Ouais. Hein, parce que, entre autres, j'élabore le bulletin, parce que la Société a un bulletin annuel qui me demande pas mal de travail, quoi. Ça, c'est ma partie sérieuse.
Oui, parce que ce qui est surprenant, c'est quand on voit effectivement, enfin surprenant, votre parcours et votre mandat auprès de cette société savante. Et puis, on découvre que vous avez une vie parallèle, une vie d'écrivain parallèle, et que depuis quand même pas mal d'années, vous développez un personnage dans vos romans, un personnage de journaliste, qui s'appelle donc Julie Lantilly, c'est ça ?
C'est ça.
Hein ? Il y a combien déjà d'aventures de cette jeune journaliste ?
Eh bien, le 13e épisode va paraître au prochain livret 20 au mois d'avril.
Oui. Elle est journaliste, j'ai plus...
Au Courrier Ligérien.
Le Courrier Ligérien, oui. ça vraiment c'est impressionnant. Là on se dit un journal comme ça, ça doit être... Il doit y avoir du scoop à la...
Ah oui, il se tient rue d'Orléans, il n'y a pas...
En lisant les aventures de Julie Lantilly... On est à Saumur et dans le coin. On n'est pas ailleurs, en fait. Hein. Elle se promène beaucoup, mais sa base, c'est quand même Saumur. Hein.
Oui, oui. Quasiment toutes mes histoires se tiennent dans le Saumurois. Hein, parce que, pour ne rien vous cacher, j'ai eu l'idée, au départ, auprès d'un auteur qui s'appelle Arthur Upfield, un auteur australien. Et ce monsieur écrivait des polars, quoi. Hein, chacune de ses intrigues se passait autour d'une particularité de l'Australie. et je me suis dit, je vais piquer la recette.
D'accord. Alors, vous avez piqué la recette, mais tenter de comparer l'Australie au Saumurois, là, il y a une gymnastique intellectuelle qu'il faut faire. Enfin, en termes de territoire, c'est un peu plus vaste, l'Australie, quand même.
J'avais pas prévu qu'il y avait moins de lecteurs, ici.
Je vais vous dire, moi, tout de suite, comme ça, spontanément, à quoi ça m'a fait penser. On n'est pas loin de Gaston Leroux ou de Maurice Leblanc, dans la manière dont vous écrivez vos histoires, même Souvestre et Alain. Enfin voilà, pour vous donner un peu de la référence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans des histoires où le personnage va essayer, alors là, en l'occurrence, un journaliste comme chez Gaston Leroux, une histoire qui est simple, l'enquêteur est très actif, enfin pilote tout. Il n'a pas la gouaille, il n'a pas le deuxième degré de certains enquêteurs qu'on voit. Ça m'a fait penser un peu à cette littérature-là.
Oui, là vous me faites honneur en me mettant dans cette lignée, mais c'est vrai que c'est ma ligne de conduite.
Oui, mais
effectivement, c'est les Maigret, ce sont les genres de cette trempe.
Quand Francis Lacassin dans ses mémoires parle de Gaston Leroux, de Maurice Leblanc, de Souvestre et Alain, enfin bref, de toute cette littérature-là, lui il la qualifie d'infra-littérature. Mais à ses yeux, c'est pas un terme péjoratif, c'est-à-dire qu'il la qualifie d'une littérature qu'on méprise un peu. Autre référence, mais là vous êtes à l'origine plus que vous n'avez emprunté. Elle me fait penser aussi à la journaliste Alice Avril dans la série des petits meurtres d'Agatha Christie.
Oui, mais elle est arrivée après celle-ci.
Elle est arrivée après.
Elle vous a copié.
Moi, je pense qu'elle vous a piqué beaucoup de choses.
Oui, mais c'est vrai. Enfin, oui, je regarde les petits meurtres d'Agatha Christie avec plaisir parce qu'effectivement, moi, je suis dans la même veine, hein, dans les mêmes histoires. Oui, bien sûr.
Oui. On est dans la référence. Moi, j'y vais. Hein. Moi, je suis toujours comme ça. C'est terrible avec moi. Vous avez des noms de titres, hein, des titres de romans. Donc, moi, j'ai lu Coup de boule.
Oui.
Je trouvais aussi que vos titres, ou certains de vos titres, il y a, comment ça s'appelle, Château Chino, mon amour, c'est ça?
Hiroshino,
mon amour.
Hiroshino, mon amour. Voilà. C'est le dernier, ça, le dernier en date.
Donc, ces titres de romans me font penser, moi, un peu aux titres qu'utilisait Frédéric Dard, ou aussi à ceux qui sont dans la série du Poulpe.
C'était surtout le Poulpe. Enfin,
c'est le Poulpe. Oui, d'accord.
Bon. Sincèrement, je ne l'ai pas...
Vous reconnaissez la faute?
Oui, après coup, je dis, mais oui, mais finalement, je fais du poulpe, là. Mais oui, c'était pas volontaire particulièrement, mais effectivement.
Moi, j'ai lu donc Coup de boule. Coup de boule, c'est une aventure qui se passe dans le domaine de la boule de fort.
Oui, bien sûr.
Alors, la boule de fort, pour tous nos auditeurs, qui sont des auditeurs qui nous écoutent sur la planète entière. Donc, on imagine bien qu'ils ne savent pas ce qu'est la boule de fort. Cette histoire se passe autour de cette pratique sportive, hein. La boule de fort, dites-nous deux mots sur la boule de fort.
La boule de fort, c'est un jeu de boule très très particulier, enfin qui est propre à la région. La région en Finlande joue, hein, qui est très limité d'ailleurs, hein, parce que partie à l'ouest, ça s'arrête après Angers. À l'est, ça va pas au-delà de l'Angers. En bas, ça s'arrête sur les bords du Layon. Et en haut, au nord, c'est vers la Sarthe.
D'accord.
Donc c'est un jeu très très limité qui se joue avec des boules lestées de fer et en plus qui ont un fort d'un côté, c'est-à-dire qu'on les leste de façon à ce que ces boules naturellement ne vont pas droit. Hein ? Et pour corser la difficulté, en plus la piste sur laquelle on joue est bombée.
Est bombée.
Si bien que la boule va d'un côté et de l'autre et redescend. Alors c'est un jeu très particulier. Une grande particularité par rapport à la pétanque, c'est que ça ne se joue pas en balançant la boule comme il faut
le geste là. Hein.
Oui, tandis que là, non, on se met devant là, et c'est très très zen. Il faut se contenir et tout, et donner une petite impulsion. Et c'est magique.
Donc, cette Julie Lantilly, elle va enquêter sur un meurtre à la suite d'une partie de Boule de Fort,
oui.
Hein, qu'elle va élucider d'ailleurs, courageusement en plongeant dans la Loire, c'est quand même, faut le faire. Hein.
Et elle a fait ça plusieurs fois même, je pense.
Alors, j'avoue vraiment honnêtement que je n'ai pas lu l'intégrale des aventures de Julie Lantilly.
Ah,
mais pour juste un petit point d'information, vous dites que la Boule de Fort se joue là, sur ce territoire-là, c'est un territoire très limité. Et je vais vous apprendre, j'espère, c'est que cette Boule de Fort, dans le Nord-Pas-de-Calais, on y joue aussi. Et on n'appelle pas ça la Boule de Fort, oui, on appelle ça la Bourle.
Oui, oui, une autre version. Oui, oui.
Et c'est la même piste, les mêmes conditions de jeu.
Ah, oui, oui.
Moi, j'ai vraiment beaucoup été... J'ai lu vraiment avec un plaisir immense Coup de Boule. Donc, je lirai d'autres aventures de Julie Lantilly.
Oui, oui, oui.
Ben, j'imagine que vous n'allez pas me dissuader. Nous allons donc terminer cette émission. Je vous remercie, Gino Blandin, d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie, Jean-Luc Oudu. Je vous remercie, Gaël Legendre, pour votre participation. J'étais vraiment enchanté de passer ce moment avec vous. Nous sommes, bien sûr, toujours sur Entre le Page et sur Radio G. Inès, je sais que l'agenda est fort chargé. Dis-nous donc ce qui va se passer prochainement.
Alors tout d'abord, je vous renvoie au site de la bibliothèque de Saumur, la médiathèque même de Saumur, pour découvrir toutes les manifestations organisées, notamment par la médiathèque elle-même et par le réseau Imaginaire. Ensuite, là c'est vrai, agenda très chargé, le 29 février et le 1er mars, rendez-vous au festival de BD Bulle en Loire à Chalonnes. Les 7 et 8 mars au Grenier Saint-Jean à Angers, c'est le printemps du livre ancien, avec pour thème le voyage immobile. C'est organisé par l'association Renaissance de la Doutre. Du 7 au 23 mars, ce sera le printemps des poètes, avec pour thème cette année le courage. À cette occasion, nous y consacrerons toute notre prochaine émission du 11 mars. Du 4 mars au 4 avril, c'est Polarisez-vous, le mois du polar à Brissac-Loire-Aubance. Un programme très riche à retrouver sur le site www.brissac-loire-aubance.fr. Allez sur la page de Entre les pages sur Radio G, ce sera plus simple. Nos amis de Calibre 58... On y enregistrerons deux émissions. Notre prochaine émission, du coup, le 11 mars, sera consacrée au printemps des poètes. Pendant cette émission, pour les pauses musicales, nous vous avons fait entendre Locke du groupe Wild Fox, extrait de son EP Wonker's Juice, et Who Else du groupe Simaway, extrait de leur album For a Kid. Et le générique de l'émission est, comme d'habitude, de Tilassine.
Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Merci Gaël Legendre pour votre chaleureux accueil, très chaleureux accueil. Merci les éditions Banquise et Comète pour votre participation. Merci Gino Blandin. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h. Alors ça fait drôle de dire ça puisqu'il ne sera pas encore 18h et ce n'est pas dans quelques instants, mais c'est qu'on enregistre l'émission à Saumur, mais il faut jouer le jeu de la radio. Donc vous entendrez le journal de 18h de RFI qui sera suivi par L'Oreille Curieuse, l'émission animée par Anne-Lie. Inès Samat et moi-même vous souhaitons une excellente soirée. Et maintenant, générique.
Yeah, okay, let's go.